Capitale sur Radio Grand Ciel, où je salue tous les auditeurs à l'écoute de cette émission préparée et présentée
par Elisabeth Couget
avec la précieuse participation et collaboration de Christina Fauta. Bonjour Christine.
Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, c'est toi qui dirige notre vaisseau de voyage, mais dans quelle direction ?
Alors nous n'allons pas très loin et resterons en Europe, dans l'Union européenne même, pour découvrir une nouvelle capitale où il pleut assez souvent.
Au nord alors.
C'est ça. Heureusement, le soleil revient aussitôt. Aujourd'hui, nous prenons le cap pour Dublin, la capitale de l'Irlande.
Ah, ce pays dont Georges Bernard Shaw disait « L'Irlande est un climat, mais où les gens sont ravis du moindre rayon de soleil et vous diront « What a lovely day ».
Oui, je voulais que ce soit Christine qui parce qu'elle a un super accent anglais. Alors, en réalité, l'Irlande a un climat océanique où il ne gèle pratiquement jamais en hiver. Le meilleur moment de la visiter se situe donc au printemps et puis à l'automne. Voilà, c'est bon, voilà, c'est ça.
Et quelles sont tes recommandations particulières pour ce voyage ?
Alors, avant toute chose, comme le climat est plus que changeant en Irlande, il faut tout prévoir. Et en y allant, n'oubliez pas de vous munir d'imperméables et de parapluies, bien sûr. C'est indispensable. Ainsi que de bottes de caoutchouc si vous voulez faire des marches dans la campagne.
Oui.
Et des pullovers, bien entendu.
Donc, bien au chaud. Et rappelle-nous la bonne période pour y aller.
Oui, alors, entre le. Donc, au printemps,
voilà,
donc le mois de mai. Entre mai et la mi-octobre, voilà.
Je crois que c'est un peu moins que les autres mois.
Absolument.
Voilà. Donc, quelle est la monnaie du pays ?
C'est l'euro, depuis février 2002.
C'est vrai, nous sommes en Europe.
Comme ici.
Bien sûr. Et avant d'y aller, peut-être un peu d'histoire, Elisabeth.
Oui, alors l'histoire de l'Irlande est faite de tragédies, de jacqueries, de massacres, de l'exode. En gros, elle est vraiment chaotique. L'origine de tout ça est le conflit entre les catholiques et les protestants, ce que maintenant, bien sûr, nous semble d'un autre âge.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, tout laisse à espérer une réconciliation définitive, j'espère, entre les deux communautés religieuses.
Dont, à l'origine, rien ne laissait présager des années, des décennies, voire des siècles de bain de sang.
Et l'Irlande, malheureusement, en est tristement célèbre.
Pour ça, alors. Mais avant d'y arriver, alors remontons à quelques 7500 ans avant notre ère. Donc, ça fait presque 10 000 ans. Où les premiers hommes, les pêcheurs, les chasseurs et nomades seraient débarqués ici. C'est ce qu'on imagine, parce que on n'a pas de traces écrites de tout ça.
Évidemment.
Et ils sont passés par un bras de terre qui, à l'époque, reliait encore l'île à l'Écosse. C'est ce qui risque de nous arriver avec le changement climatique.
Mais ça va peut-être revenir, ce bras de terre.
Ça peut arriver. Alors ensuite, aux alentours de 4000 avant notre ère, c'est une civilisation agraire qui va s'y développer. Et au même moment, l'île se couvrira de mégalithes.
Très bien. Et donc à peu près contemporain des pyramides d'Égypte.
Absolument. Les Celtes suivront ces premiers hommes entre 2000 et 100 ans avant Jésus-Christ, qui forment une société hiérarchisée où les druides et les poètes sont considérés comme des interlocuteurs privilégiés des dieux. Et ça, ce qui était le plus important.
Oui, car en fait, les Romains, c'est extraordinaire, n'ont jamais débarqué en Irlande. Et donc, la civilisation celte a pu s'épanouir comme nulle part ailleurs.
Et n'a pas subi de transformation. C'est ça qui est important. C'est en multipliant les razzias sur les côtes britanniques que les Irlandais ont ouvert leurs portes au christianisme. Et à Saint-Patrick, dont on parlera un peu plus tard. Au Moyen-Âge, un étonnant réseau de monastères va s'y développer et l'Irlande deviendra l'île des saints et des savants. De cette période, les plus belles preuves rappelant tout ça sont conservées au National Museum de Dublin.
Au XIIe siècle, arrivent en Irlande les bénédictins, suivis par les cisterciens, dont les monastères témoignent aussi de cette époque.
Et être catholique en Irlande, pour la population, devient une seconde nature. Du coup, il ne faut pas s'étonner par la déclaration de la Constitution en 1937. Voilà ce qu'ils ont dit. Que l'hommage à l'adoration publique est dû au Dieu Tout-Puissant. Voilà,
c'est assez donc, difficile c'est pas tout à fait à un état laïque.
Dans notre état laïque, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Voilà.
Donc, on peut dire que 15 à 17 siècles après l'arrivée de Saint-Patrick, les Irlandais sont restés fidèles à leur foi.
Toujours, oui. Bon, alors il serait peut-être, puisqu'on reparle encore de Saint-Patrick, il serait peut-être
oui.
temps d'en
c'est
parler
ça, alors,
un petit peu.
Commençons donc par le début, qui était Saint-Patrick ?
Alors, selon la légende, le futur saint, fils d'un centurion romain breton, originaire de Grande-Bretagne, serait né vers 390 de notre ère. Donc, en gros, il a à peu près l'âge de Saint-Martin.
À peu près, exactement. L'évangélisation.
Oui, qui n'était pas vraiment. Oui. C'était plutôt païen.
En Gaule, qui est un pays celte aussi.
Exactement, voilà, c'est ça. Et il a été enlevé par des pirates irlandais. Il deviendra l'esclave d'un druide, mais il a réussi à fuir. Et une solide instruction religieuse plus tard reviendra en Irlande pour évangéliser ce pays dont cet état de païenne ne lui plaisait pas tellement à l'époque où il était retenu par le druide. Et alors,
c'est tout un roman l'histoire de Saint-Patrick.
Exactement.
En fait.
Et à la mort de Saint-Patrick, vers 460, on pouvait considérer que l'Irlande est devenue chrétienne.
Et l'un des symboles de l'Irlande est le trèfle. Est-ce que c'est en relation avec Saint-Patrick ?
Oui, exactement. Le trèfle, bien sûr, à trois feuilles, pas à quatre,
oui.
qui est rare. Je parle d'une trèfle à trois feuilles, aurait permis au futur Saint-Patrick d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité et même de convertir le roi à Angus. Alors aujourd'hui, cette feuille trilobée est toujours le symbole de l'Irlande.
Et le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, est devenue la fête nationale.
Mais le trèfle n'est pas le seul symbole de ce pays. Alors n'oublions pas les fameuses croix celtiques, le plus souvent aux abords des monastères, que servaient de point de rassemblement lors des cérémonies religieuses. Alors les premières de ces croix datent du 8e siècle.
Et les Vikings, on ne peut pas parler de l'Irlande sans les évoquer, je pense.
Oui, tout à fait. Alors, leurs fameux drakkars sont apparus sur les côtes irlandaises. Par la suite, des châteaux forts et des tours rondes défensives couvriront le pays. Et c'est par ces pirates scandinaves que les premières villes comme Dublin, Waterford ou Wexford ont été fondées.
Avec cela, on a fait le tour du début de l'histoire de ce pays extraordinaire.
Enfin, du moins l'histoire, voilà, l'histoire ancienne. Alors oui, et à la suite, tout en relation avec l'Angleterre protestante, est bien connu et explique parfaitement l'histoire de ce pays jusqu'au XXe siècle, tout ensanglanté, jusqu'à l'accord du Vendredi Saint.
Good Friday.
En avril 1998, qui amènera enfin la paix et la reconnaissance et la légitimité du peuple irlandais.
Et aujourd'hui, c'est un pays du XXIe siècle, avec la population la plus jeune d'Europe, mais avec les mêmes problèmes que d'autres pays, bien sûr, de cette Europe.
Voilà. Alors, après ce tour d'horizon, je pense que nous serons prêts à visiter Dublin après une courte pause musicale relatant par le groupe U2 le terrible dimanche sanglant de 1972 où 13 manifestants sont abattus par l'armée britannique. Écoutons Bloody Sunday.
Bloody Sunday.
Close my eyes and make it go away. How long
ces quelques notes, rappelant cette terrible journée, nous voici à la porte de Dublin,
capitale de la République d'Irlande,
dont, entre autres, on peut dire que c'est une cité jeune et trépidante.
Oui, ou alors que c'est la ville aux 1000 pubs.
Ou du moins, c'est ce qui était le cas il y a encore une dizaine d'années, mais même l'Irlande change.
Les pubs.
Même oh, l'Irlande disparaît, certains, oui. Alors, même l'Irlande change, et il y a bien un bon tiers de ces 1000 pubs ont disparu, pour un tas de raisons, entre autres les lois européennes qui les imposent de ne pas fumer, conduire en état
d'ivresse,
peut-être pas ivresse, mais bon, un peu
de chop, de bière.
J'allais dire pas aviné parce que c'est pas du vin qu'ils boivent, mais de la bière. Ouais. Enfin bon, donc du coup, il y en a un petit peu moins. Ceci dit, ça fait quand même toujours partie de
Dublin.
Dublin, voilà, on peut pas imaginer sans ces pubs, même s'il y en a plus 1000, voilà. Et donc. Où les gens de Dublin, que l'on appelle les vrais latins du Nord, sont bavards, amicaux et démonstratifs.
Particulièrement
donc
chaleureux.
Donc on peut dire que c'est une ville trépidante, voilà, oui. Amusante. Voilà.
Pourtant, cette ville, quoique chaleureuse, c'est vrai, a tout de même la couleur de la mélancolie, entre la couleur grise du ciel et la couleur grise de la mer et de la rivière qui la traverse.
Alors, commençons par se sacrifier, entre guillemets, au rituel de la douceur de vivre à l'irlandaise.
Ah oui, c'est la première chose à faire.
Avec une bonne chope de bière dans un des 1000 ou moins de pubs avant de démarrer notre visite de la ville.
C'est une ville non seulement aux 1000 pubs, mais aussi aux 1000 possibilités.
Où pourtant, en dehors d'un vaste ensemble datant de l'époque des rois anglais George II et George III, Dublin ne possède pas un très grand patrimoine architectural.
Mais il y a les promenades sur les quais de la Liffey, sa rivière, qui, tout comme les rues piétonnières, reflètent le charme de la ville et sa longue histoire.
Ce sont les Vikings qui, au IXe siècle, lui ont donné le nom Dublin, mais en deux mots, Dublin, qui veut dire, Christine, c'est pas de l'anglais.
Non, ça doit être du danois,
oui,
puisque c'est des Vikings. Le marais noir.
Noir, voilà. Alors exactement, cette cité occupait et occupe encore une position stratégique qui attire au Moyen-Âge, les convoitises, les invasions et les occupations se succéderont et jalonneront les siècles du Moyen-Âge. La couronne anglaise l'occupera jusqu'à l'arrivée des Tudors et ensuite viendront les princes d'Orange.
Ce qui emmènera le pouvoir des protestants et aussi l'âge d'or économique en Irlande.
Hélas, au XIXe siècle,
changement.
Un long déclin économique s'amorce, exacerbé par la grande famine de 1845, et Dublin, la révoltée, qui envisage sérieusement à se débarrasser des Anglais. C'est là que, par désespoir, les Irlandais commencent à émigrer en grand nombre vers le Nouveau Monde. Et là-bas, quoi qu'ils deviennent des Américains, mais tout comme au pays, ils resteront toujours aussi méprisés par les protestants. Il faudra attendre qu'il y ait des Canadiens pour qu'être Irlandais aux États-Unis ne soit plus si mal vu.
Et c'est en 1916 que commence en Irlande le long chemin douloureux vers l'indépendance tant espérée.
Ce sera un chemin sanglant, semé de morts, de ruines et de martyrs, où 30 ans plus tard, en 1949, la République sera proclamée et Dublin sera née. Mais la capitale d'aujourd'hui, la ville animée et moderne qui ira de l'avant, ne naîtra qu'il y a 30 ans, en 1989.
Et voilà, Dublin attend notre visite, tout comme nos auditeurs. Mais tu as du mal à quitter l'histoire poignante de ce pays. Alors, Elisabeth, nous commençons par quoi cette visite? C'est toi qui nous guides.
Exactement. Alors, j'aime présenter l'histoire d'un pays et d'une ville avant de se perdre dans ses rues.
Et tu as raison.
Et aussi, j'aime mettre les choses en ordre. Donc, commencer sa visite par la partie la plus ancienne, donc médiévale de Dublin, dont ne subsistent que peu de vestiges. Alors, allons tout de suite faire un tour au City Hall pour avoir la meilleure introduction possible et compréhension de la ville, car ce bâtiment loge en permanence une exposition bien meilleur qu'un livre d'images nous raconte Dublin. À commencer par l'arrivée de la flotte des Vikings vers 837, le débarquement des Anglo-Normands.
C'est certainement une belle façon de voir Dublin. Et la prochaine étape sera peut-être le Dublin Castle, le château de Dublin, dont la construction date de l'époque de Jean Sans Terre.
Ah oui, en 1204, ce château a toujours été le symbole de la domination anglaise et la résidence des vice-rois d'Irlande jusqu'en 1922, donc durant 7 siècles. Hein, cette forteresse fut la cible de beaucoup d'attaques et du château médiéval largement détruit ne reste que peu de choses. Seul rescapé est le Record Tower, qui était un hôpital militaire jusqu'à nos jours.
Et que nous propose donc cette tour, le Record Tower? Que pouvons-nous voir de là?
Les appartements d'État, richement meublés, la fastueuse salle d'Apollon, la salle du trône avec le siège royal offert par Guillaume d'Orange, la salle de bal et le Saint-Patrick Hall où tous les 7 ans se déroule la cérémonie d'investiture des présidents de la République.
Et donc beaucoup de choses à voir quand même dans cette tour. Et quelle est la première église que tu nous proposes à visiter, puisque nous sommes bien sûr dans un véritable pays chrétien où beaucoup d'établissements religieux doivent nous attendre?
Oui, exactement. Alors voyons peut-être d'abord celle construite en bois par les Vikings. Bien sûr, c'est plus en état, parce que reconstruite en pierre et achevée en 1220, plus tard incendiée, attaquée à maintes reprises, l'église s'est retrouvée au 19e siècle, en piteux état. Aujourd'hui, cette église remplie d'histoire, nommée Christchurch Cathédrale, a été réhabilitée en style néo-gothique.
Et la célèbre Saint-Patrick, Saint Patrick Cathédrale, elle est aussi dans le quartier médiéval.
Oui, absolument. Construite à l'emplacement de la première église chrétienne où, au 5e siècle, Saint Patrick baptisait les premiers convertis. Alors, à côté de la cathédrale, à visiter absolument, au milieu du jardin de l'église, le puits sacré.
Et c'est bien ici que l'on trouve le tombeau de Jonathan Swift.
Oui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jonathan Swift est l'auteur des célèbres voyages de Gulliver.
Ces histoires qui enchantaient les jeunes. J'espère toujours.
J'espère toujours. Ça les enchante. Alors, aujourd'hui, Jonathan Swift apparaît, en outre d'avoir été un grand écrivain, comme un héros et un champion de la nation irlandaise dans la lutte contre l'Angleterre. Il est né à Dublin en 1713, était nommé doyen de la cathédrale Saint-Patrick, alors qu'il escomptait autre chose. Il espérait l'évêché de York, il était très déçu, et son ressentiment s'en ressent face aux occupants. Et c'est à lui que l'on doit le slogan assez violent: brûler tout ce qui vient d'Angleterre, sauf le charbon.
Quand a-t-il écrit les voyages de Gulliver?
En 1726, ce qui le rendra mondialement célèbre, mais mourra à demi-fou. Et c'est à la cathédrale Saint-Patrick qu'il prend son repos éternel sur le côté ouest de la nef. Son épitaphe est assez édifiant quant au personnage qui était Jonathan Swift. Voilà ce que l'on peut y lire. « Va ton chemin passant, et imite, si tu le peux, celui qui fut au meilleur de lui-même l'inflexible défenseur de la liberté. »
Une belle épitaphe.
Exactement, et sur ces belles paroles, et au son du grand orgue de la cathédrale de Chartres, qui nous rappellera celui au son exceptionnel de Saint-Patrick, qui détient le record mondial de puissance avec ses 4000 tuyaux que nous vous laissons pour quelques instants.
Avant de continuer notre promenade à travers Dublin.
Dans cette ultime partie de notre émission capitale consacrée à Dublin, après le quartier médiéval découvert il y a un petit moment, nous voici dans une autre partie de cette ville tout aussi attachante.
Et c'est ce que l'on nomme la cité géorgienne qui forme le centre de Dublin.
Cet ensemble architectural du XVIIIe siècle a conservé un charme suranné. En le visitant, nous ferons une très jolie promenade entrecoupée par des visites de musées, de flâneries avec quelques arrêts dans les boutiques typiques.
De majestueux bâtiments sont à visiter tout au long de notre promenade dans ce quartier, dont peut-être un des plus spectaculaires est une banque, la Bank of Ireland, la Banque d'Irlande.
C'est un bâtiment qui fut construit en 1729 pour abriter le Parlement irlandais et utilisé comme tel jusqu'à 1800. Alors le Parlement dissous, le bâtiment fut vendu à la Banque d'Irlande. Vous pouvez bien entendu la visiter pour admirer entre autres les merveilleuses boiseries et les non moins magnifiques tapisseries et surtout l'exceptionnel lustre en cristal dont les 1233 pièces datent de 1788.
Comme dans chaque ville britannique, Dublin abrite son collège traditionnel.
Et oui, il y a l'inévitable Trinity College qui date du XVIIIe siècle. Oui. Où ont étudié des hommes célèbres, comme Bram Stoker. N'oubliez pas, c'était le père de Dracula.
Ah oui, ça me disait rien, moi, Bram Stoker.
Si, c'est
d'accord.
Père de Dracula, ainsi qu'Oscar Wilde et Samuel Beckett, voilà, oui. Pour le plus récemment. La vieille librairie s'y trouve aussi depuis 1801, et à ce titre, même aujourd'hui, reçoit un exemplaire de tous les livres publiés dans les îles britanniques.
Et elle est célèbre aussi par ses dimensions exceptionnelles.
Alors, sur une longueur de 64 mètres et de 12 mètres de largeur, 200 000 textes anciens sommeillent en compagnie d'une harpe irlandaise qui date du XIe siècle. Ce célèbre instrument aux 29 cordes en laiton orne les oraux irlandais. Donc, même si vous n'êtes jamais allé à Dublin, regardez
les oraux et on aura une idée de cette harpe. Et parlons un peu à ce moment-là, du coup, des musées de la ville.
Oui, en premier, citons la National Gallery et allons-y admirer les magnifiques toiles de Fragonard, de Goya, de Velázquez, de Monet, de Pissarro, etc., etc. Comme on le disait tout à l'heure, Oscar Wilde a fait ses études au Trinity College, un des plus célèbres personnages de Dublin. Et à côté de sa statue, au sourire narquois, érigée au centre du square où se trouve le musée qui porte son nom, installé dans sa maison natale, où stuc, miroir, lustre de cristal donnent un décor idoine au dandy sulfureux qu'il était. Et Oscar Wilde a vécu durant 20 ans.
C'est le square Merion qui est entouré de magnifiques demeures géorgiennes.
Et oui, et tout en briques rouges, elles sont semblables, à part peut-être de quelques détails, comme par exemple la couleur des portes ou la forme des balcons de fer forgé. Cette place dessinée et créée en 1762 est un des plus agréables lieux de détente de Dublin. Beaucoup d'hommes célèbres donc y ont vécu, tout comme Oscar Wilde, bien sûr.
Et donc, d'ailleurs, puisque le musée porte son nom, il faut absolument le visiter, ne serait-ce que pour s'imprégner de l'âme de l'homme de lettres.
Alors, je vous en reparle encore de ce musée, car on ne pense pas seulement à la magnifique maison bourgeoise du fin XVIIIe siècle, dans toute sa splendeur, mais du musée ravissant et très différent d'un musée classique, comme le musée national dans ce même quartier, ou d'autres musées avec ses objets d'art décoratif, des bijoux antiques ou des témoignages préhistoriques, etc., etc.
Que de choses. On ne peut quitter ce quartier sans tout de même s'arrêter à Leinster House.
Alors, où siège le Parlement de la République d'Irlande?
Ce style géorgien dont nous venons de survoler de magnifiques spécimens est particulier et typique de la Grande-Bretagne.
On le retrouve en Irlande, bien sûr, et donc à Dublin, où sous le règne des rois George II et III, la riche bourgeoisie se lance dans la construction de monuments prestigieux. C'est un style qui s'inspire des arts de la Renaissance et qui donnera à Dublin un petit air, je dis bien un petit air de l'Italie classique.
Moins le soleil, mais presque.
entre deux averses.
Et comme à Paris, on trouve aussi à Dublin le quartier latin.
Oui, créé dans un ancien quartier d'entrepôt en briques, qui ainsi n'a pas disparu et aujourd'hui est devenu le quartier des bobos. Il y a eu des heureuses transformations, comme dans le cas de l'ancien hôpital royal du XVIIe siècle, qui est devenu le musée de l'art moderne irlandais.
Elisabeth, sais-tu que l'on peut appeler Dublin la capitale des amoureux ?
Et oui, c'est vrai, j'allais oublier qu'une de ces églises abrite le tombeau de Saint-Valentin.
14 février.
Depuis 1853, ce qui conforte l'image romantique de la ville.
Notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel nous fait voyager à travers le monde, mais en une demi-heure, il n'est bien sûr pas facile, sinon impossible de tout vous raconter. Il va falloir donc quitter Dublin.
Alors, pour terminer notre visite, allons faire une promenade romantique, digne de Saint-Valentin, en longeant le long du fleuve Liffey. Arrêtons-nous un instant, installons-nous sur un banc et ayons une pensée
émue.
Plus qu'émue, oui, pour ce peuple qui a tant souffert et qui, pour survivre et ne pas mourir, est parti peupler l'Amérique et a donné son sang pour sa liberté. C'est sur cette réflexion quelque peu grave que nous vous quitterons aujourd'hui, au son d'une harpe irlandaise qui nous rappelle le magnifique instrument de la librairie du XIe siècle que nous venons de visiter au cours de notre émission.
Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre émission Capitale. Merci Elisabeth pour ce voyage et à bientôt sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.